Merci d'être à l'écoute de CFM Radio et soyez les bienvenus dans le magazine de la rédaction. Bonjour et bon vendredi, c'est Jacques avec vous pendant une petite demi-heure pour quelques actualités de notre territoire. Et pour commencer, une nouvelle en bref, car demain à Cordes-sur-Ciel devait avoir lieu la troisième édition du carnaval de la Caetivia, le carnaval des miséreux. Et vous vous en doutez, hein, si j'en parle au conditionnel, c'est parce qu'il est reporté ce carnaval à samedi de la semaine prochaine, le 9 mars donc, car les conditions météo ne sont pas optimales demain. L'association Cordae La Talvera qui l'organise, ce carnaval, maintient, on va dire, la même ossature du programme. Donc rendez-vous sur la halle de Cordes-sur-Ciel samedi 9 mars à partir de 9h30 pour le départ du cortège qui va sillonner, je vous le rappelle, les rues de la cité médiévale de Cordes avant de se rendre aux cabanes pour la crémation et en tout cas le jugement de Monsieur Carnaval. Donc, gardez vos pétassous, vos déguisements, costumes, instruments de musique bien au chaud et ça vous laisse même le temps de les peaufiner. Dans le mag, aujourd'hui, Madame Laurence Lorda, qui est ingénieure au Centre National d'Études Spatiales de Toulouse, le CNES, chargée du calcul des trajectoires des satellites, elle répondra à la question toute simple de savoir pourquoi est-ce que l'on flotte lorsqu'on est dans l'espace. C'est à suivre dans notre feuilleton Raconte-moi l'espace en partenariat avec le CNES. Et puis à Albi, ce soir, un triple vernissage sur, dans trois lieux, hein, albigeois, qui vont présenter jusqu'au 24 mars plusieurs œuvres d'un artiste talentueux tarnais disparu il y a moins de 2 ans. Monsieur Thierry Boyer était considéré comme un artiste à part entière, hein, un anti-héros même de l'art contemporain. Et le Centre d'art Le Lay d'Albi a choisi de lui rendre hommage en organisant cette exposition rétrospective au frigo, la cheminée ainsi que l'hôtel Rochegude à Albi, autour donc de plusieurs médiums hein, qu'utilisait Thierry Boyer. Pour cette occasion, il y a un ouvrage inédit qui vient tout juste de paraître sous la houlette de son frère Fred Boyer, qui sera avec nous dans ce magazine, avec nous par téléphone dans quelques minutes, le temps d'écouter Francis Cabrel nous chanter « Madame n'aime pas ».
Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas, mais pas de problème, on jouera de la guitare quand même. C'est pas madame qui commande après tout. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas les basses fréquences. On se demande à quoi madame pense. Nous, sans la basse, on est perdu. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Ah, il faudra que madame s'y fasse, qu'elle sache que rien ne remplace un bon tempo comme celui-là. Madame n'aime pas le piano. Madame n'aime même pas le piano. Ah, je trouve madame bien difficile. On a le meilleur pianiste en ville. On se demande vraiment ce qu'il lui faut. Madame n'aime pas l'accordéon. Madame n'aime pas l'accordéon. On s'en fout de ce que madame aime ou n'aime pas. Il jouera quand même. Nous, c'est ce que nous aimons. Ce que nous jouons, madame n'aime pas ce que nous jouons. Madame dit que c'est du folklore, que ça joue faux, que ça joue fort. Alors d'avance, madame, pardon, pardon. folklore. Que ça joue faux, que ça joue fort. Alors d'avance madame, pardon. Pardon.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Du 2 au 24 mars, trois lieux albigeois accueilleront quelques œuvres de l'artiste tarnais Thierry Boyer, qui est né à Carmaux et qui est décédé il y a deux ans maintenant à Saint-Benoît de Carmaux. À l'hôtel Rochegude, au Frigo ainsi qu'à la Cheminée, le centre d'art Le Lait nous propose l'exposition Traces, Racines, Empreintes qui nous embarque dans le souvenir du passé industriel du Carmausin jusqu'au réseau de l'infini. Infiniment petit. Nous sommes en ligne avec son frangin Frédéric Boyer qui participe activement à cette exposition rétrospective. Bonjour Fred Boyer.
Oui, bonjour.
On te coupe en pleine installation pour le vernissage de cette exposition qui aura lieu ce vendredi 1er mars avec des peintures, des dessins, des sculptures qui vont occuper, paraît-il, l'espace, car il y en aura autant sur les murs, le plafond et même le sol, de ce que j'ai compris.
Oui. En fait, il va y avoir, parce que mon frère a travaillé sur des mises en espace, mais à la fois sur la première époque de son travail, sur des gros volumes avec de l'acier et du verre. Et puis, il y a aussi des impressions sur du verre. Il y aura aussi quelques peintures, mais pas trop. Et après, il y aura aussi des installations comme dans le parc de l'hôtel Rochegude. En fait, il y a un germinoscope, on peut en parler un peu plus tout à l'heure.
Voilà. Ben oui, je voudrais bien qu'on en parle de ce germinoscope qui est une des œuvres importantes de Thierry Boyer. Mais déjà, s'il fallait présenter cet artiste qui est inclassable, car touche à tout, qu'est-ce que tu dirais ?
Ben, c'est que, en fait, voilà, il a eu un parcours, à la fois, il a fait l'école des Beaux-Arts dans les années 90 à Perpignan. Et puis après, des fois, on l'a qualifié un peu comme anti-héros de l'art contemporain. C'est-à-dire que il était à la fois, il a fait des résidences à plusieurs endroits, au Japon, en Norvège, mais aussi à Carmaux, par exemple, au musée Centre d'Art du Verre. Et en fait, il était un peu pour lui, la contemplation et l'espace et le rapport à la matière étaient très importants, quoi.
Le rapport à la matière ainsi qu'aux autres, c'est un peu ça qui résume son travail. On parle d'un engagement pour l'art et pour les autres.
Ben oui, parce qu'en fait, pour lui, il était dans un dialogue, et pour lui, en fait, aussi la posture du participant ou du spectateur entre guillemets était très importante. Dans l'idée de, un peu comme il disait, en fait, des fois, de violenter le regard et de mettre en mouvement l'esprit, quoi. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il avait besoin du dialogue pour pouvoir échanger, pas forcément tenir compte de ce qu'allait dire le spectateur entre guillemets, mais pour aussi le mettre en mouvement et le questionner par rapport à notre rapport au monde et à l'environnement, quoi.
Et parmi ses œuvres, d'ailleurs, pour l'illustrer, tu l'as mentionné un peu plus tôt, on va en parler tout de suite, c'est ce fameux germinoscope.
Ce germinoscope, en fait, il y a eu plusieurs germinoscopes et plusieurs étapes dans les germinoscopes. Et donc, en fait, c'était un peu un genre de laboratoire, d'endroit où il laissait faire, où des fois il attirait des insectes, où il mettait en culture, par exemple, des plantes, du sol, ou des fois de la spiruline. Et il observait, mais c'était aussi un endroit où, à des moments, il mettait en mouvement de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a écrit, on en parlera tout à l'heure dans l'histoire de ce livre un peu carnet de voyage qui va sortir pour l'occasion, en fait, c'était un dialogue entre... Et puis, des fois, il marchait le jour et la nuit pour, en fait, voir qu'est-ce qui s'est passé à différents moments dans cette genre de cellule, cabane, architecture, sculpture qui était le germinoscope.
Ouais. Et donc, dans cet espace-là, dans ce germinoscope-là, autant le monde animal que le monde végétal, il laissait des empreintes.
Voilà. Par exemple, en fait, ce qu'il va y avoir dans différents lieux, mais surtout à Rochegude, mais aussi un peu à la Cheminée, il va y avoir en fait des photographies qu'il a fait sur le dôme du germinoscope, qui des fois il avait laissé à l'abandon, parce qu'il y a en fait c'est une structure de cabane assez verticale qui a un dôme comme qu'on appelle un sky dome, qu'on peut trouver dans les structures industrielles ou les hangars ou les usines. Et il avait laissé à l'abandon ce dôme qui est un ciel de plexiglas. Et il y avait en fait des algues et des genres de lichens qui s'étaient développés. Et il y a des escargots qui ont mangé la surface du dôme et qui ont fait des chemins. Et il a photographié ces chemins. avec qu'en fait que les escargots faisaient avec lenteur. Et des fois, on a besoin aussi de lenteur pour prendre du recul par rapport à notre monde et être plus peut-être enclin avec ce qu'on vit tous les jours, quoi.
L'exposition démarre ce samedi jusqu'au 24 mars. Le vernissage, c'est ce vendredi, hein, à partir de 17h30 à l'hôtel, à la cheminée, pardon, à 18h30 rendez-vous au frigo et à 19h30 à l'hôtel Rochegude. Et en marge de ces expositions, Fred Boyer, tu as coordonné l'édition d'un ouvrage, le carnet de voyage dont tu as parlé à l'instant, un ouvrage illustré qui est tiré à 500 exemplaires. Où il est question de quoi ?
L'idée de cet ouvrage, en fait, il a eu une évolution. En fait, l'idée, ça ressemble à la fois à un carnet de voyage, un genre de catalogue, et puis aussi un livre un peu souvenir où on va à la fois découvrir les œuvres de Thierry, mais aussi on va découvrir un peu le personnage qui n'était pas toujours mis en avant. Et donc aussi dans ce recueil-là, il va y avoir à la fois des images, comme tu viens de dire, mais il va y avoir aussi en fait 13 textes. Dont certains sont inédits, en fait, des textes que certains qui ont été écrits à l'occasion d'expositions, de rencontres à Toulouse ou en Norvège ou au Japon, et aussi en fait des auteurs qui ont écrit avec lui ou pour lui et qui en fait racontent aussi leur relation par rapport à l'écriture. Donc il y a même des textes qui ont un côté un peu fictionnel sur les traces des œuvres dans les œuvres de Thierry Boyer, quoi.
Qui a participé à l'écriture de ce livre?
Ben, il y a Tony Kunter qui était un ami à mon frère et qui est aussi historien et qui habite sur Albi. Après, il y a Christophe Massé et Nathalie Grangis qui, tous les deux, étaient des collègues de l'école des Beaux-Arts à Perpignan. Voilà. Mmh. Et puis, il y a Bernard Donadieu qui était enseignant, un peu chercheur, qui habitait à Pennes, qui était entre Pennes et Marseille et qui, en fait, a écrit un texte justement sur quelle mouche nous pique sur en fait le rapport en fait aux insectes et à l'espace et voir qu'en fait aussi nous rendre un peu l'homme beaucoup plus humble et en disant qu'en fait ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux et on a beaucoup de choses à apprendre et donc et quelque part le regard de l'artiste c'est aussi mettre en relation un petit peu tout ça et aussi dans d'autres auteurs il y a aussi Gérard Tinet qui en fait a été professeur à l'école d'architecture de Toulouse comme mon frère elle a été à des moments enseignant vacataire et puis il y a d'autres auteurs que les participants qui viendront ou les curieux qui viendront découvrir le travail de mon frère découvriront parce qu'on va pas lire le livre à leur place. Voilà.
Lors d'une exposition à l'atelier blanc de Villefranche de Rouergue, David Lefébure de CFM Villefranche s'entretenait avec Thierry Boyer sur son travail d'artiste. C'était en 2021. Écoutons-le.
Le point de départ, c'est d'abord des œuvres qui sont influencées par un monde industriel tombé en désuétude, à travers lequel je me débattais pour sublimer un petit peu tout cela. Et progressivement, en fonction des lieux où je suis allé, en résidence au Japon et en Norvège aussi, ça a modifié mon regard, ma pratique artistique. Et donc, c'est introduit des thématiques autour de la nature, de l'environnement. Mes dernières réalisations, donc, je suis parti d'un champignon que j'ai trouvé, qu'on m'a donné, et que j'ai inclus dans de la résine de polyester. Et ce champignon ressemble étrangement à un cerveau. Donc j'ai découpé le contour du champignon et je l'ai imprimé sur des plaques de verre. Et les veines de la grisaille, parce que c'est de la grisaille de verre, diluée dans l'eau, créent des aspects un peu des réseaux de veines et ça évoque tout de suite un cerveau. Mais au départ, il y a une métamorphose, il y a un changement. Alors, ils sont répétés de manière un peu obsessionnelle. Il y a un côté aussi, une manière d'habiter le monde de manière poétique. Le fait de faire l'art, ça révèle la pensée et même souvent, moi, je suis à l'écoute du spectateur ou des personnes qui font des commentaires pour voir des choses que je n'avais pas vues en faisant. Mais là, en fait, à partir du local, le germinoscope est installé dans un sous-bois. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais on arrive à des choses plus universelles, quoi, de manière métaphorique.
Thierry Boyer au micro de David Lefébure de CFM Villefranche, c'était en 2021 et toujours avec nous dans ce magazine, son frère Fred de Boyer, pour nous parler de l'exposition qui est consacrée à cet artiste tarnais. C'est à Albi par le Centre d'Art Le Lay et dans trois lieux, jusqu'à la fin mars, le 24 exactement, l'hôtel Rochegude, le Frigo et la Cheminée seront les écrins des œuvres de Thierry Boyer. Comment vous avez pensé à cette exposition, Fred, dans chacun de ces lieux? Est-ce que c'est un échantillon de ses œuvres ou bien c'est thématisé par endroit?
C'est à la fois un échantillon de ses œuvres, oui, mais c'est aussi, par exemple, alors, bah, l'hôtel Rochegude, ça va être des pièces un peu maîtresses et emblématiques de travail de Thierry au fil du temps, dans un lieu qui est un lieu un peu plus, voilà, qui est un lieu qui ressemble vraiment à un lieu comme d'exposition classique quelque part, même si le travail qui va être présenté, en fait, eh bien, vous le verrez, peut nous interpeller et dans une démarche de création contemporaine entre passé et futur. Et après, à la Cheminée, on est plutôt dans un ancien lieu industriel de briques roses de l'Albigeois, et donc on va découvrir une autre partie qui sera plutôt vraiment une exposition aussi, mais sous un autre regard, avec des choses aussi en extérieur, un peu des embryons de germinoscope qui ont été l'évolution de son travail dans ses cabanes d'architecture. Et au Frigo, en fait, ça va être vraiment plus comme si c'était son atelier. Donc là, on aura à la fois des matières, des esquisses, des choses en construction, et comme si en fait il avait quitté son atelier et qu'il n'était pas revenu et qu'il allait revenir dans la minute qui allait suivre. Voilà.
Ouais. Et jusqu'au 24 mars, on peut librement hein, visiter ces expositions. J'ai vu aussi qu'il y avait des visites guidées, commentées, pour découvrir un peu autrement Thierry Boyer. Toi en particulier, Fred, en tant que son frère, quel souvenir tu gardes donc de ce frère artiste ?
Ben, comme je l'ai écrit, que vous découvrirez dans l'avant-propos du livre qui sort, Trace, Racine et Empreinte, ben à la fois, ben comme on peut, toute relation qu'on peut avoir avec un frère, ben des fois c'est simple, des fois c'est pas simple, mais c'était aussi un rapport d'échange, de dialogue et des fois aussi de confrontation d'idées. Voilà. Ben, c'est sûr que c'était un être assez réservé, mais qui était par contre toujours engagé et convaincu, comme s'il avait une ligne droite à suivre. Et donc, ces ateliers, c'était un endroit entre le dedans et le dehors, entre les bois, le Cos, par exemple, sur la commune de Peine, ou les anciennes vestiges industriels du Carmozin. Et donc, ben voilà, c'était un travailleur acharné, discret, et des fois un peu, ben, avec un caractère bien trempé aussi, mais comme chacun, peut-être qu'on peut avoir à certains moments. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Mais si, d'une part déjà, mais je me demandais aussi, au vu un peu de l'éclectisme de ses œuvres et donc de son travail aussi, je me dis, mais ça devait être quelqu'un qui devait être tout le temps en train de réfléchir à son art.
Ah, bien sûr. Et puis qu'il y a des moments où on n'arrêtait pas d'expérimenter des choses, jusqu'à aller mettre dans des tubes de verre de l'eau d'une mare, ou d'aller en fait prendre ses sculptures et les amener dans une grotte et voir avec de la lumière comment en fait des fois un symbole qu'il avait créé, comment il allait se déformer sur la paroi, et se dire faut aussi que je déforme le symbole de départ. Donc en fait il dialoguait vraiment avec les matières, avec les significations entre réalité et imaginaire, quoi.
Et cette curiosité là a toujours été dans son caractère, je pense à votre enfance par exemple, est-ce que c'était du genre à tout le temps faire des expérimentations?
Oui et non, par contre, à aller, oui, en partie, et aussi aller, par contre, l'importance de la balade et de la marche était capitale, quoi. Le fait d'aller marcher, d'aller des fois se baigner au bord de l'Aveyron ou autre chose, pour en fait faire dialoguer avec les autres, comme ça a été le cas pendant tout son travail artistique avec d'autres artistes ou avec le public, mais aussi dialoguer avec ce qui nous entoure, le vivant qui nous entoure, quoi.
Trace, Racine, Empreinte, une exposition rétrospective autour des œuvres de Thierry Boyer, un artiste tarnais engagé au service de l'art et des autres, du 2 au 24 mars, c'est à Albi, à l'hôtel Rochegude, Le Frigo ainsi que La Cheminée, et c'est proposé par le Centre d'Art Le Lay en parallèle hein, de cette exposition, un ouvrage illustré d'une centaine de pages qui paraît à cette occasion. Et j'ai vu aussi, Fred, qu'il y avait des ateliers, des rencontres, des discussions sur la base ou autour du travail de Thierry Boyer, et ça va jusqu'à à des thématiques en lien avec la psychanalyse, par exemple.
Voilà, par exemple, ben justement, le 16 mars, il va y avoir toute une journée où il y a surtout l'après-midi, en fait, où il y a un atelier de psychanalyse politique. Moi, j'ai jamais vraiment trop assisté à ça, mais en fait, Thierry avait déjà été contacté par des psychanalystes de la Luigeois et qui ont décidé de se réunir de nouveau et puis d'ouvrir ce temps-là, en fait, une après-midi aux gens qui étaient là pour questionner justement au départ de l'œuvre de Thierry ou en lien avec l'œuvre de Thierry, questionner en fait notre rapport au monde et au vivant et comment, donc il y a un temps d'échange, de discussion entre psychanalyse et philosophie et art contemporain ou art tout court, quoi. Voilà. Et puis à la fin de la journée, à 19h, il y aura au frigo un temps un peu sur les traces de Thierry Boyer, de rencontres, hommages, de partage avec Pierre, et on, à cette occasion-là, on passera sûrement des films inédits qui avaient été faits sur son travail. Voilà.
Racines et empreintes, l'exposition rétrospective du Centre d'art Le Lait-sur-Loire, l'artiste tarnais Thierry Boyer. Le vernissage, c'est ce vendredi à 17h30 à la Cheminée, 18h30 au Frigo et à 19h30 à l'hôtel Rochegude, les trois lieux d'Albi qui vont abriter cette exposition que l'on peut visiter librement jusqu'au 24 mars. Merci beaucoup Fred Boyer d'avoir été avec nous sur CFM Radio et puis bonne installation.
Merci et bonne malade si vous venez participer ou bonne découverte si vous ne connaissez pas le travail de Thierry. Ouais.
With ya, what you know about the rebel in ya? Pile of fish, you're gonna flip it on ya. Raise the bar and they move it on ya. Take you off the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terrible if we organize, they can get it. In arms. The 1P on the siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies and they bought them for us on. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on.
Le collectif Arad Kilo avec Mamani Keita, Mike Ladd et ce titre Chaos Embedded. On va lever maintenant les yeux vers le ciel dans ce magazine avec notre feuilleton Raconte-moi l'espace en partenariat avec le Centre National d'Études Spatiales.
Comment ça marche? Bonjour, je m'appelle Caroline et je voudrais savoir pourquoi on flotte dans l'espace.
Alors, merci Caroline pour cette excellente question. Donc moi, je m'appelle Laurence Lorda, je suis ingénieure au Centre National d'Études Spatiales et je m'occupe de calculer les trajectoires des satellites qui tournent autour de la Terre. Donc quand on voit ces astronautes flotter comme ça dans la station spatiale, on a l'impression qu'ils sont immobiles, on a une certaine impression de flottement, un petit peu comme quand toi, tu fais la planche dans la piscine et tu as ce flottement comme ça avec les bras écartés. Et en réalité, il faut se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Si on a cette impression-là, c'est que les astronautes, ils vont très très vite. Ils vont à une vitesse très grande, de l'ordre de grandeur de la vitesse d'une balle tirée par un pistolet. Cette vitesse, elle est de 28 000 km/h. C'est-à-dire qu'en une heure, l'astronaute va parcourir 28 000 km. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de flottement. Donc l'astronaute, même s'il est à 300 km d'altitude de la Terre, il est toujours attiré par elle, par sa gravité. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait que cette gravité ne le fait pas tomber au sol. Prenons une image pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, imagine que tu vas dans ton parc de jeux favori et qu'il y a une balançoire suspendue. Donc, tu sais, une balançoire, il y a un petit siège en bois accroché à deux cordes à un portique. Imagine que sur cette balançoire, tu y accroches ton doudou préféré ou un jouet ou quelque chose comme ça. Et que tu commences à pousser cette balançoire pour balancer ce doudou. Tu vas commencer au début doucement. Et si tu arrives à donner suffisamment de vitesse à cette balançoire, je suis sûre que tu as déjà essayé, tu vas pouvoir voir que cette balançoire, elle va faire le tour du portique auquel elle est attachée. Et bien, quand il arrive, ton doudou, il est en orbite autour de son portique. C'est la même chose, en fait. Donc, ton siège, c'est la station spatiale. Ton doudou, il est astronaute. La barre à laquelle la balançoire est accrochée, c'est la Terre. La corde qu'il y a entre cette barre et la balançoire, ça représente la manière dont la Terre attire l'astronaute ou la station spatiale. Et donc, c'est cette force de gravité dont on a parlé. Et le fait de lui donner la vitesse, ça va lui permettre de lutter contre cette attraction et de faire ce cercle qui, en fait, est une orbite et de ne pas retomber bêtement et de continuer à tourner. C'est exactement ce qui se passe pour un astronaute. La fusée, elle va non seulement monter l'astronaute très haut, à 300 km à peu près, qui est l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Mais elle va également donner à notre astronaute une vitesse très importante qui va lui permettre d'être en orbite et de ne pas retomber sur la Terre. Et donc c'est grâce à ça qu'on a l'impression que notre astronaute, il flotte. Mais en réalité, tu l'as compris, il flotte pas, il tourne très vite autour de la Terre. Et vraiment, vraiment très, très vite, ce qui lui permet de ne jamais y retomber. Mais alors tu vas me dire comment ça se fait qu'on ne se rend pas compte de cette vitesse extraordinaire à laquelle vont les astronautes et qu'on a l'impression qu'ils flottent, qu'ils sont complètement immobiles. En fait, c'est très simple. C'est parce que la station spatiale dans laquelle ils évoluent va exactement à la même vitesse qu'eux. Donc eux, en fait, relativement à cette station qui les entoure, on a l'impression qu'ils sont immobiles et ils peuvent tranquillement faire leurs expériences et travailler dans la station, dormir dans la station, manger dans la station. Donc si toi aussi, tu as envie de devenir une astronaute un jour, j'espère que tu auras la chance d'expérimenter cette sensation extraordinaire de flotter. Tu auras la chance de voir 15 levées de soleil et 15 couchers de soleil par jour. Et c'est grâce à ça que tu pourras observer la vitesse extraordinaire à laquelle tu voyages autour de la Terre.
C'était Laurence Lorda, ingénieure au CNES, en charge du calcul des trajectoires des satellites dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.
Et c'est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Le Mac du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Les informations tout de suite. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.